L'actualité des Alpes du Sud avec la grogne de certains buralistes contre la hausse des taxes sur les prix du tabac.
Pour s'opposer au choix de l'exécutif, ils refusent de vendre les tickets à gratter pour le loto du patrimoine.
Plusieurs brebis retrouvées mortes à Réautier, le loup, une nouvelle fois pointé du doigt.
Cette fois, ce n'est pas un chien errant, estime le maire Marcel Cana. Une résolution déposée par la sénatrice des Hautes-Alpes a été adoptée pour soutenir les éleveurs. Précision à suivre.
Et il y aura moins de neige en montagne.
L'alerte d'un membre du groupe d'experts sur le climat de Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous l'entendrez dans ce journal.
Dans ce journal, également, le quartier de la Baume à Sisteron qui fait peau neuve.
Adieu les fils électriques qui pendaient dans le ciel et qui pourrissaient la vie et la vue des habitants. Les travaux ont été inaugurés hier.
Et puis un mot de sport en fin de journal.
Avec Romaric Pons qui reviendra sur le défi sportif d'un charpentier de Seillac. Il va faire le tour du Kira pour une cause humanitaire, mais d'abord la météo, Thierry.
Eh oui, belle journée d'automne, toujours le soleil qui tient le haut de l'affiche, dissipant les nuages. Bah, à présent, en fin de nuit, dans les fonds de vallée, notamment près de l'Isère. Côté température pour aujourd'hui sur nos deux départements, c'est plutôt sympathique, hein, de 22 jusqu'à 27 degrés. Mais tout d'abord, le parquet qui a ouvert une information judiciaire après de présumées violences policières à Digne-les-Bains cet été.
Information de nos confrères du Dauphiné Libéré. Cette affaire, souvenez-vous, avait fait beaucoup de bruit. La scène s'était déroulée mi-août en marge du Corso de la Lavande. Elle avait été filmée par un vidéaste amateur. Sur les images, on y voyait l'interpellation musclée d'un jeune homme visiblement alcoolisé. Interpellation menée par deux policiers, épaulés par deux renforts, un maître chien et un adjoint à la sécurité d'Avignon. De son côté, l'IGPN, la police des polices, poursuit l'enquête. Enquête pour violence volontaire en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique.
Dans le reste de l'actualité, la grogne des buralistes français. Certains ont même décidé d'engager un bras de fer avec le gouvernement.
Depuis que l'exécutif, oui, a décidé d'augmenter les taxes sur les paquets de cigarettes qui passeront la barre symbolique des 10 euros en 2020. Une décision qui fait donc des étincelles dans tout le pays, comme dans les Alpes du Sud. Quelques professionnels ont rejoint l'association des buralistes en colère. C'est le cas de Christophe Châteauquin. Il y a 5 ans qu'il vend du tabac à Sisteron. Pour lui, comme pour ses confrères, s'il n'y a pas d'harmonisation des tarifs à l'échelle européenne, sa profession va disparaître.
Alors nous, ce qu'on demande concrètement, c'est que le gouvernement fasse ce qu'il avait dit, c'est-à-dire que M. Macron, quand il a lancé sa candidature, avait dit pour les buralistes qu'il n'y aurait pas de paquet à 10 euros tant qu'il n'y aura pas d'harmonisation européenne. Et au jour d'aujourd'hui, on arrive au paquet à 10 euros et les pays frontaliers sont bien moins cher que nous. Donc on veut que les prix soient gelés jusqu'à ce qu'il y ait une harmonisation au niveau européen, quoi, simplement.
Alors, pour faire pression sur le gouvernement, les buralistes en colère, qui comptent 4000 membres sur leur page Facebook, ont eu une idée: boycotter le jeu à gratter du loto du patrimoine, une décision que Christophe Châteauquin assume parfaitement.
En fait, le but, c'est toujours le même. L'État ne fait rien pour nous sauver, nous buralistes. Ils ramassent beaucoup d'argent dans leur caisse avec les taxes qu'ils nous prennent, hein, puis c'est quand même 70 ou 80% qu'ils prennent de taxes sur le tabac. Ils font tout pour que ça ne fonctionne pas pour nous, ils font tout pour qu'on coule, et du jour au lendemain, ils nous demandent de leur donner un coup de main avec ce jeu pour sauver le patrimoine. Donc je pense qu'il ne faut pas exagérer, quoi. Nous, on est gentils, mais il y a des limites. Donc on explique à nos clients, si vous voulez donner pour le patrimoine, au lieu d'acheter un jeu à gratter à 15 euros qui va rapporter 1,52 euros pour le patrimoine, allez directement sur le site du patrimoine et donnez 15 euros. Là, ils auront 13,90 ou 14 euros pour eux.
On n'est pas contre ça.
On est contre la façon de faire du gouvernement. Dire on va se servir des buralistes pour vendre ce jeu. Ça, on ne veut pas.
Des propos recueillis par Alex Cam. Notez que la Confédération des buralistes des Alpes de Haute-Provence n'a pas suivi de son côté cette initiative.
Réautier a-t-elle été touchée pour la première fois par une attaque de loup? La question se pose.
Et elle bourdonne dans la tête de Marcel Cana. 4 brebis ont été retrouvées mortes, 18 ont été blessées et 10 manquent toujours à l'appel. C'est la désolation, avoue le maire et conseiller départemental. Jusque-là, les attaques dans le secteur pouvaient être mises sur le compte des chiens errants, mais cette fois, c'est bien le loup. Ça change la donne pour les éleveurs locaux, tranche Marcel Cana, qui rappelle que les lieutenants de louveterie ont été équipés de lunettes à vision nocturne, mais leur utilisation reste interdite en France. Le département, je cite, réclame d'urgence un arrêté ministériel. De son côté, Pascal Boyer indique que les lieutenants de louveterie peuvent s'équiper de certaines lunettes thermiques, à condition de suivre une formation auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dans le cadre du plan loup. Cette autorisation a été inscrite à l'article 12 de l'arrêté interministériel du 29 février 2018, signé par les ministres de l'Agriculture l'agriculture et de la transition écologique, souligne la députée des Hautes-Alpes dans un communiqué.
Oui, et la sénatrice des Hautes-Alpes n'est pas en reste. Les élus du Palais du Luxembourg ont adopté une résolution proposée par Patricia Morey-Richaud.
Une résolution qui a recueilli 313 pour et 21 contre. Elle prévoit, cette résolution, une gestion coordonnée des populations de grands prédateurs à l'échelle européenne et renforce la nécessité d'améliorer la connaissance scientifique sur l'hybridation et l'éthologie du loup pour mieux adapter la réponse humaine. Le texte juge encore indispensable une refonte du système d'indemnisation des éleveurs. La détresse et l'angoisse des éleveurs est réelle et compréhensible, a reconnu le ministre de l'Agriculture présent lors du vote. Stéphane Travert a assuré que le plan national d'action 2018-2023 sur le loup offrait plus de moyens d'agir. Il a également précisé qu'une évaluation serait réalisée à mi-parcours.
On parle maintenant du climat. Il y aura moins de neige dans les années à venir. Ça, c'est un membre du groupe d'experts sur le climat de Provence-Alpes-Côte d'Azur qui le dit.
Yves Bidet ne mâche pas ses mots. Pour lui, ça ne fait pas de doute. Le changement climatique est une réalité dans notre région. Conséquence, les chutes de neige sont moins importantes durant les saisons intermédiaires, notamment dans les stations à moyenne altitude, c'est-à-dire celles qui culminent à moins de 1800 mètres.
C'est-à-dire que les stations qui vont être toutes celles dont le domaine skiable est par exemple entre 1800 et 2008-3000, là vont être moins impactés, puisque à cette altitude-là, par contre, toutes les stations de moyenne altitude, entre 1200, 1500 mètres, là, vont être impactées. Dans les projections qui ont été faites pour la fin du siècle, avec l'hypothèse où les gaz à effet de serre continuent à être émettre sur la trajectoire actuelle, on assiste à 90% de baisse de l'enneigement à cette échéance-là. Déjà au milieu du siècle, on a une baisse de l'ordre de 40 à 50%. Donc c'est quelque chose qui est pas immédiat. C'est quelque chose en plus qui est un peu masqué par la variabilité naturelle de l'enneigement. On se souvient qu'il y a des années très très enneigées. L'année dernière, par exemple, l'hiver dernier a été très enneigé et des années très sèches déjà dans. Donc c'est un peu masqué, mais ouais. En moyenne, on va avoir de plus en plus d'années où l'enneigement va être faible.
Voilà, et puis notez que Yves Bidet sera l'invité du supplément des Alpes d'Haute-Provence tout à l'heure à 8h30. Il répondra aux questions d'Alex Cam. Direction maintenant Sisteron, où il y a des travaux d'éclairage public et d'enfouissement de réseaux électriques et télécoms qui ont lieu du côté du quartier de la Baume.
Oui, ils sont terminés. Ils ont été inaugurés ce mercredi matin par le maire de Sisteron et par les représentants des donneurs d'ordre, à savoir le SDE, c'est-à-dire le syndicat d'énergie des Alpes de Haute-Provence, et le SMS SMD, autrement dit, le syndicat mixte du Sisteronais Moyenne Durance d'énergie, Aurore Valori.
Oui, et pour apprécier la qualité du travail effectué, rien de mieux qu'une petite déambulation dans ce quartier résidentiel d'une cinquantaine de villas. On est là au-dessus de la Durance et en face de la Citadelle, en tête du cortège Robert Guay, président du SMSMD.
Les travaux ont été très bien effectués et je pense que si vous l'avez compris, tout ce qui est la partie environnementale a été respecté, les clôtures, les arbustes. Je pense que c'est une vraie réussite.
Concrètement, avec ces travaux, les câbles électriques ont été enfouis et la vingtaine de poteaux qui les supportaient ont notamment été retirés. Des lampadaires à LED ont été installés. Un gros plus pour le maire de Sisteron, Daniel Spagnou.
L'avantage du LED, c'est qu'il fait économiser 50% d'énergie. Donc voilà, un moment où on nous dit il faut économiser l'énergie, et je crois que l'État a bien raison de le dire, eh bien il faut que les communes donnent l'exemple. Voilà, ben ça c'est un exemple concret. Ici, dans ce quartier, on va économiser 50% d'électricité.
Et au bout du compte, ce sont les habitants qui redécouvrent leur quartier. C'est le cas de Jean-Louis.
Maintenant, on a une belle vue sur la Citadelle. Il n'y a plus de poteaux devant. Puis c'est sécurisant, quoi. Disons que voilà.
Ouais, c'était surtout vieux. D'ailleurs, il y a eu des courts-circuits à ce poteau. Là, c'était tellement vieux que... Non, là, c'est impeccable.
Georges, lui, a 71 ans. Il habite le quartier de la Baume depuis 25 ans. Et il n'a qu'un seul regret.
Les fils électriques, seulement les fils électriques, c'est dommage, c'est que les hirondelles, quand elles vont partir, elles vont plus savoir où se poser.
Et notez que le coût des travaux s'élève à près de 650 000 euros, une somme financée notamment par le SDE 04, le SMSMD, la commune de Sisteron et l'État.
Voilà le reportage d'Aurore Valory.
3000 pins cendrons plantés sur 7 hectares pendant 10 jours. C'est dans la réserve naturelle régionale des Parthias.
C'est l'opération lancée par la Ligue pour la protection des oiseaux et la commune de Puy-Saint-André dans le cadre du programme Nature 2050 porté par la CDC Biodiversité. Il s'agit d'un chantier participatif de plantation dans ce secteur du Briançonnais. L'idée, inviter toutes les bonnes volontés à venir du 8 au 19 octobre prochain à planter des pins cendrons. Un petit coup de pouce, vous l'avez dit tout à l'heure Thierry, un petit coup de pelle pour restaurer la biodiversité dans le secteur, car ce conifère met du temps à se répandre. On écoute Vanessa Fine, responsable de l'antenne des Hautes-Alpes de la LPO et conservatrice de la réserve naturelle régionale des Parthias.
Pour la petite histoire, le pin cendron, en fait, pour se disséminer, il est en symbiose avec un oiseau qui s'appelle le casse-noix moucheté. Pour être disséminé, c'est l'oiseau qui, voulant se nourrir des graines, les met dans son jabot, va les cacher plus loin dans une petite cachette, et puis soit il en oublie, soit il meurt. Et donc les graines qui sont oubliés comme ça vont germer et c'est comme ça que se dissémine le pin cimbreau. Donc il faut un certain temps avant que petit à petit le cimbreau avance, le casse-noix le dissémine et que ça reconquiert comme ça petit à petit. Il faut environ 80 années à un pin cimbreau avant d'être adulte, mature et produire des graines. Donc on les verra pas nous, mais c'est pour ça qu'on accélère et qu'on donne un petit coup de pouce parce que ça prend vraiment du temps.
À noter que samedi 6 octobre de 10h à 18h, un atelier découverte et gratuit sera proposé à la Maison de la Géologie du Clos du Vas.